Vous écoutez France Musique.
Merci beaucoup, Ariel Buteau, l'ami de la nuit. Sérénade à Troyes. Cette nuit, ce printemps, nous partons pour l'une des deux capitales de l'Espagne, j'ai nommé Barcelone, capitale de la Catalogne en tout cas, et dont il m'arrive de penser que c'est peut-être la véritable métropole de nos voisins espagnols. C'est une ville qui a un caractère tout à fait dense, tout à fait spectaculaire, tout à fait immédiatement perceptible. C'est une ville de charme, on ne résiste pas à Barcelone. Nous allons évoquer ses écrivains, comme chaque semaine. Nous allons évoquer ses compositeurs, ses mélodies. Et je vous donnerai sur notre site, francemusique.fr, quelques conseils de bon sens, à vrai dire, pour vous rendre à Barcelone, ce qui est la chose du monde la plus aisée. Il n'y a aucun piège, aucune difficulté. C'est une ville complètement ouverte et complètement accessible. L'émission est évidemment très facile à réécouter. Vous n'ignorez plus tout cela désormais. Et pour l'instant, prenons contact avec la musique ô combien irrésistible de la capitale de la Catalogne. En commençant par les frères Pla, qui étaient des compositeurs nés au début du XVIIIe siècle, vers 1720. Il y a eu Manuel Pla et Joan, je ne sais pas bien prononcer le catalan, Joan Pla. Et je dois dire que j'ai une tendresse particulière pour ce concerto pour flûte en sol majeur. Nous allons en écouter le premier mouvement, interprété par l'English Chamber Orchestra, dirigé par José Luis García, à la flûte Claudi Arimany. Thank you. On le sait, la Catalogne est une des provinces de l'Espagne. C'est peut-être la plus connue d'ailleurs. Et elle a toujours été, en quelque sorte, en insurrection, en opposition, dans certains cas en compatibilité avec la Castille de Madrid, et avec le pouvoir central. Il existe à Barcelone toujours une sorte de spécificité qui passe d'abord par la langue, bien entendu. Tout est bilingue en Catalogne, en catalan et en castillan. Et pas simplement, ce sont aussi des affaires politiques, la guerre d'Espagne, Barcelone, capitale de la République, face à Madrid, où le pouvoir insurrectionnel s'était installé. Et rivalité footballistique, on aura l'occasion de reparler d'un côté des merengues du Real et de l'autre côté des Blaugrana de Barcelone, plus généralement d'ailleurs affrontement de culture. Mais enfin tout ça, ça fait d'excellents espagnols, si je puis dire, en parodiant Maurice Chevalier. Le nom de Pla qu'on vient d'évoquer pour la musique est un nom très répandu en Catalogne, et c'est aussi celui de Josep Pla, un très étonnant écrivain né en 1897 et qui nous a laissé un texte écrit dans la langue catalane qui s'intitule « Le cahier gris », qui est un essai d'introspection, je veux dire, particulièrement intime et particulièrement incisif. Je vais vous lire le début. Ce journal commence le 8 mars 1818, tandis que la grippe espagnole, évidemment, s'est abattue sur le pays. Avec toutes ces grippes, l'université a dû fermer ses portes. Depuis, mon frère et moi, nous vivons à la maison, à Palafrugell, dans la famille. Nous sommes deux étudiants désœuvrés et je ne vois mon frère, qui aime beaucoup jouer au football, bien qu'il se soit déjà cassé un bras et une jambe, qu'aux heures des repas. Il a sa vie. Moi, je fais ce que je peux. Je ne regrette pas Barcelone et encore moins l'université. La vie de village, avec les amis que j'ai ici, me plaît. Au cours du déjeuner, au dessert, un grand plat de crème caramélisée et un délicieux biscuit moelleux et doré, recouvert d'un léger voile de sucre, font leur apparition à table. Ma mère me dit « Tu sais qu'aujourd'hui tu as 21 ans ?» Effectivement, il serait absurde de discuter « Aujourd'hui, j'ai 21 ans ». Je jette un coup d'œil circulaire. Mon père mange en silence dans un état de parfaite normalité. Ma mère ne me paraît pas aussi nerveuse qu'à son habitude. Comme dans ce pays, on ne fête que le saint patron, la présence du biscuit et de la crème ne m'inspire pas confiance. Je me demande s'ils ont réellement été élaborés pour fêter mon anniversaire ou pour me rappeler que le bilan de ces premières années est absolument négatif, franchement maigre. Un tel détail est si naturel, me semble-t-il. Avoir des enfants sous forme d'inconnus, de nébuleuses, ce doit être bien désagréable. Mais ma frivolité est si grande que le problème de conscience que suscitent en moi les pâtisseries ne peut m'empêcher de trouver le biscuit extrêmement savoureux et la crème littéralement exquise. Quand je m'en resserre, la froideur augmente à vue d'œil. 21 ans, la famille. Chose curieuse et compliquée.
capítulo de amor. Señorita que riega la albahaca, si de atrevida no me tildara. Yo al rosal acercarme quisiera, donde florecen rosas tan bellas.
Une zarzuela, une pièce chantée, en l'espèce Luisa Fernanda, interprétée évidemment par une catalane, la grande Montserrat Caballé. Le ténor, c'est son mari, Bernabé Marti. La zarzuela, donc, cette pièce si spécifiquement espagnole, s'inspire quant à son nom du mot zarza, qui veut dire la ronce. Et oui, on fait allusion ce faisant au palais de la Zarzuela, qui est au nord de Madrid et qui existe toujours et qui était, paraît-il, entouré de ronces. J'ai évoqué à l'instant le fameux Barça, l'un des deux plus grands clubs de l'Espagne avec le Real de Madrid, rivalité ancestrale et de tout temps. D'un côté, les blancs, les merengues de Madrid, et de l'autre, les rouges et bleus, plus exactement les grenats et bleu de Barcelone, Blaugrana. Le club avait été fondé par un immigré suisse venu, je crois, du Tessin. Et les couleurs du Tessin, le canton italophone de l'Italie, ce sont précisément le bleu et le grenat. Voilà pourquoi les joueurs du Barça portent ces couleurs. Le Barça, c'est beaucoup plus qu'un club de foot. C'est un refuge identitaire. C'est un petit peu comme le club de hockey de Montréal, le Canadien habitant, qui dit beaucoup plus que la ville de Montréal, puisque c'est en réalité la traduction de la province de Québec. Eh bien, c'est pareil avec le Barça. Le Barça, ce sont les espoirs, souvent d'ailleurs assouvis, mais quelquefois déçus, d'un club, d'une province, d'une langue, d'une culture. Et pour parler du Barça, un journaliste sportif remarquable, d'ailleurs d'Espagne, qui s'appelle Emilio Pérez de Rosas, j'ai trouvé ce texte, La passion du Barça, dans l'anthologie de Jean-Noël Mouret, intitulé Le goût de Barcelone, paru au Mercure de France. Voici ce qu'écrit cet excellent confrère. Le stade n'est qu'un cri, nous sommes les rouges et bleus, les gente blaugrana, peu importe d'où nous venons, du nord comme du sud, sur un point nous sommes d'accord, un drapeau nous rend frères, rouge et bleu dans le vent, un cri dont la vaillance a fait connaître notre nom dans le monde entier, Barça, Barça, Barça. L'homme du Barcelone traduit fidèlement l'esprit qui anime cette vieille institution catalane qu'a fondée le 29 novembre 1899 un Suisse du nom de Hans Gamper. Il est impossible, absolument impossible, d'écrire l'histoire de la Catalogne ou de sa capitale en oubliant le Barcelone, le Barça, un club qui, fort de ses 108 000 sociétaires, socios, constitue depuis plusieurs décennies déjà la première société sportive du monde. Un simple fait définit ce que représente le Barça pour les Catalans. Ils sont 4 millions à ne pas se coucher le dimanche sans s'être au préalable enquis de ces résultats. Nicolau Casaos, l'une des personnes qui connaît le mieux la région, l'histoire du barcelonisme, la passion pour le club, celle de la naissance et du développement du sport en Catalogne, assure que la nation catalane repose sur trois piliers, Montserrat, l'Orphéon catalan et le Barça. À mon sens, le Barcelone est le foyer dont rêve tout catalan, le refuge qu'il cherche pour y éprouver la plénitude de son être. Aussi, le Barcelone s'est-il peu à peu modelé à l'image du catalan et de la Catalogne, au point qu'ils sont maintenant inséparables.
Thank you.
Catalonia, une suite populaire d'Isaac Albéniz, qui avait vu le jour en Catalogne, j'allais dire naturellement, en 1860. C'est l'Orchestre Philharmonique de Mexico qui l'interprétait sous la direction de Enrique Batiz. L'exposition universelle, la ville des prodiges. Vous vous souvenez peut-être de ce roman prodigieux d'un autre catalan, et c'est tout à fait logique, en l'espèce Eduardo Mendoza, qui a vu le jour à Barcelone en 1943. La ville des prodiges, c'est le roman de l'exposition universelle de Barcelone en 1929, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une évocation extrêmement inspirée de sa ville par l'auteur, Eduardo Mendoza. Ça a été en son temps d'ailleurs un très très grand succès de librairie à travers l'Europe. Et je voudrais vous en lire un extrait, un passage de ce roman qui intervient peu après la décision qui a été prise de relancer une exposition universelle à Barcelone. Il en a existé une en 1888, qui a été un grand succès. Et les édiles de la ville, qui à ce moment-là se porte assez mal, décide de renouveler l'expérience en 1929 pour relancer précisément l'industrie, l'activité, mettre un terme si possible au chômage, bref, essayer de redonner vie à Barcelone qui traverse de très mauvais moments. Comme la fois d'avant, les écueils ne se firent pas attendre. Le déclenchement de la Grande Guerre d'abord, puis l'éternelle réticence du gouvernement de Madrid paralysèrent les travaux. À l'article de la mort, le financier put récupérer son âme d'entre les griffes du malin grâce à l'intercession de saint Antoine, mais l'exposition ne s'en releva pas. Il fallut attendre 20 années pour que la polémique de travaux publics du général Primo de Rivera donne à l'idée un nouveau souffle. À présent, non seulement Montjuïc, mais la ville entière servirait de scène à des projets colossaux. Beaucoup d'édifices furent abattus, on dépava les rues pour y faire passer les voies du métro. L'aspect de Barcelone rappelait les tranchées de cette grande guerre qui avait fait avorter l'exposition. Des milliers et des milliers d'ouvriers travaillaient sur ces chantiers. Manœuvres et maçons venus de toutes les portes de la péninsule, surtout du sud, ils arrivaient dans des trains surchargés sur les quais de la gare de France, récemment agrandie et rénovée. Comme toujours, la ville n'avait pas la capacité d'absorber cette crue. Faute de maisons, les immigrants se logeaient dans des taudis appelés barracas. Les faubourgs de baraques poussaient du jour au lendemain dans les environs de la ville, sur les pentes de Montjuïc, sur les rives du Besos, faubourgs immondes baptisés La Mina, El Campo de la Bota ou Pékin. L'inquiétant dans ce phénomène, le pire du baraquismo, c'était son caractère de permanence. La volonté des baraquistes de s'installer, de se sédentariser, sautait aux yeux. Aux fenêtres des baraques les plus misérables, on voyait des rideaux de guenilles avec des pierres passées à la chaux. Ils délimitaient des jardins où ils plantaient des tomates avec des bidons de pétrole vides. Ils faisaient des pots de fleurs dans lesquels poussaient géraniums rouges et blancs, persil et basilic. Avouez que c'est tout à fait magnifique, cette évocation. Le roman date de 1988, c'est-à-dire exactement 100 ans après la première exposition universelle de Barcelone.
Oh,
C'était Montserrat Figueras, la compagne de Jordi Savall, son épouse d'ailleurs, tout simplement, qui interprétait cette chanson catalane dite Canso del Ladre, la chanson du voleur. Elle a disparu, Montserrat Figueras, en 2011. Et c'est évidemment l'ensemble de Jordi Savall qui l'interprétait, celui de la Chapelle Royale de Catalogne. Je vais vous lire un extrait d'un texte d'un romancier contemporain assez doué, qui s'appelle Pedro Zarraluki, et qui est une évocation du plus célèbre, peut-être, des monuments de la capitale de la Catalogne, la fameuse Sagrada Familia, la famille sacrée, ce monument élevé à la fois par Gaudi et qui n'a jamais été terminé. Il faut bien reconnaître que la singularité du style de Gaudi éblouit, stupéfie, et que par ailleurs la visite proprement dite de la cathédrale, franchement, vaut non pas le détour, mais le voyage. Nous sommes montés au clocher le plus élevé du grand temple expiatoire. De là, la vue était magnifique. Le ciel montrait quelques rares nuages purement décoratifs et un petit vent doux semblait se faufiler dans nos vêtements. Seuls, les touristes étaient de trop, invasion outrageante à laquelle Barcelone était alors totalement livrée. Même s'il devenait de plus en plus enquiquinant, Rosser et moi avons commencé à nous embrasser. J'espère que l'on pardonnera ce qui s'est passé ensuite. J'ai peut-être un peu dépassé les bornes, mais je suis sûr que le lecteur m'excusera avec un sourire complice aux lèvres. Tout homme est excité lorsqu'il embrasse la femme qu'il aime. Mais il est encore plus si Barcelone s'étend à ses pieds. Et si cela se passe à la Sagrada Familia, le monument le plus important de la ville, celui qu'on imprime sur les t-shirts. J'étais fou d'amour et l'idée m'est passée par la tête de faire sur le champ un petit Barcelonais. Rosser a un peu résisté, on nous regardait. Je me suis alors tourné vers les touristes et je les ai chassés comme Jésus le fit avec les pharisiens du temple. Qu'étaient-ils d'autre ? Je les ai roués de coups jusqu'à ce qu'ils quittent précipitamment les lieux. Aveuglé par ma victoire, je ne me suis pas rendu compte que Rosser avait disparu dans la queue. Je suis lentement descendu par les escaliers, fatigué et découragé. En bas, au lieu de retrouver Rosser, je suis tombé sur la police municipale. Les touristes m'avaient dénoncé pour agression. Ils m'ont de nouveau arrêté et arrivé au commissariat, ils m'ont dit qu'ils en avaient marre de moi et qu'à partir de maintenant, j'avais intérêt à me tenir à carreau. Granados, 1867, 1916, les Goyescas, bien sûr. En voici l'une, El Fandango de Candil, interprétée comme il se doit par une grande pianiste barcelonaise, Alicia de la Rocha. Thank you. Même par une nuit froide d'un jour quelconque du mois de mars, cette rue qui relie la Plaza de Catalunya à la mer, c'est-à-dire la zone la plus centrale au quartier le plus délabré, reste le spectacle excitant que Jésus se rappelait et qu'il est sorti chercher. Le palais de la Virreina, le théâtre du Liceo ou le marché de la Boqueria sont d'admirables constructions alternantes avec des terrains vagues où les maisons ont été abattues pour le bien de la collectivité, avec de surprenants immeubles ultramodernes, tels le nouvel hôtel de la police municipale, ou bien avec de vieilles aberrations architecturales qui abritent de modestes grands magasins. Ce n'est pourtant pas ce que Pedro recherche et trouve sur les Ramblas, mais les gens, cette foule qui monte et qui descend, soit d'un pas tranquille, comme si la vie n'avait pas de sens, soit d'un pas pressé, fuyant la peur ou cherchant désespérément quelque chose. Une fois de plus, Jésus associe la richesse de la ville à sa variété, au mélange d'éléments distincts et parfois contraires. Tout ce que tu peux imaginer existe, et tu le trouves dans les grandes villes, tu le trouves à Barcelone. Mais oui, bien sûr, évocation des Ramblas, cette artère majeure de la capitale catalane. C'est un texte d'Andreu Martín, un romancier catalan contemporain. Non moins catalan, le père, le padre Antonio Soler, né en 1729 en Catalogne et disparu en 1783. On connaît ses œuvres pour clavecin, ses œuvres pour guitare. Voici sa sonate numéro 84 en ré majeur qui a été écrite à l'origine pour clavecin, mais qui est ici transposée de façon très heureuse, je trouve, pour harpe. Et c'est Godelieve Schrama, une néerlandaise, qui l'interprète. Thank you. L'Espagne est de ces pays qui comptent deux métropoles, deux capitales. Alors, l'une l'est réellement, l'autre pas tout à fait. Mais j'aime bien cette dualité que l'on trouve par exemple en Turquie. Vous avez d'un côté Ankara, la véritable capitale, et Istanbul, la plus grande ville. On retrouve ça également au Portugal, avec la rivalité ancestrale entre Lisbonne et Porto, ou encore en Italie, tout simplement, avec Rome et Milan. Eh bien, en Catalogne et en Espagne, ce sont donc de vieilles rivales, peut-être quelquefois de vieilles amies, en tout cas à travers le football, à travers le championnat du monde, puisque les Espagnols sont à la fois champions d'Europe et champions du monde de football, que Barcelone et que Madrid peuvent cheminer ensemble. Paul Morand avait l'œil sur ce pays, comme il avait d'ailleurs l'œil sur toute l'Europe. Et on sait que Morand n'est pas simplement un nouvelliste ou un romancier, c'est un formidable portraitiste de ville. Voici ce qu'il écrivait dans « Ouvert la nuit » en 1950 à propos de Barcelone. Et comme très souvent chez lui, le charme de son style, c'est cette capacité à associer la description, l'interprétation même et en même temps des histoires extrêmement personnelles et bien sûr des histoires d'amour. Un peu plus tard, un taxi vint me prendre pour me conduire au parc de Vich, où Remedios m'avait donné rendez-vous. Sur la place Colomb, la confrérie des mendiants allongée sur deux chaises de fer dormait. Ils étaient là une centaine, la figure noire, les pieds enveloppés dans les journaux du soir, sous les palmiers à peau de pachyderme, s'épouillant dans leurs rêves. Parmi eux, un monsieur en smoking, une fleur à la boutonnière, ayant renoncé à son domicile, ronflait la bouche ouverte. La voiture suivit le faubourg d'Arguelles, quartier des enrichis de la Bourse au coton. À vrai dire, je doutais de mon réveil. Ce n'était que villa tordue comme des guimauves, prenant jour par des fenêtres en côte de maille, défendues par des algues métalliques, des lianes en zinc peintes en vert, en rose tendre. Sous des blindages gondolés, des maisons en caoutchouc s'affaissaient, trouées d'une porte béante par où la rue continuait, montant en pente douce jusqu'au toit. À leur flanc, les loges de portiers pendaient comme des fibromes. Les cheminées poussaient des varices bulbeuses en haut des murs où se battaient des chimères dans un buisson d'iris forgé. Dans l'allée qui se tordait en verre coupé, je m'engageai et par des spirales gagnai le pavillon à damiers ou souriantes parmi les aloès. Remedios m'attendait. Elle était presque nue sous un cache-poussière lilas de chez Valentin, le roi des caoutchoucs. Ses cheveux huilés prenaient le ciel. Elle coula vers moi ses yeux d'aquarium et fronçant sa bouche en ce baiser sans objet qu'est une moue. Sympathique, êtes-vous satisfait? Je vous rêve, je vous adore. Avouez que le style de Morand, c'est vraiment quelque chose. Et par ailleurs, cette allusion aux maisons gondolées est tellement exacte pour peu que vous vous soyez déjà rendu à Barcelone, et à défaut vous allez vous y rendre désormais, vous verrez effectivement ce côté presque montre molle cher à Salvador Dalí ou à certaines des compositions du peintre catalan Joan Miró.
Oh,
Mis Descuidados Ojos, la soprane Marta Almajano nous interprétait cet air absolument délicieux, accompagné à la guitare par José Miguel Moreno. Le plus célèbre sans doute des écrivains catalans d'aujourd'hui, c'est Manuel Vázquez Montalbán, l'inventeur du détective Pepe Carvalho. Vous le connaissez bien sûr, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Il y a au moins 40 volumes d'aventures policières de ce Pepe Carvalho que nous devons donc à Montalbán. Mais il est aussi l'auteur d'un livre charmant qui s'appelle tout simplement Barcelone avec un S au pluriel, qu'il a publié dans les années 90, il y a donc un peu plus de 20 ans maintenant. Et c'est en fait un assemblage de textes composés par lui au long de sa longue carrière sur sa ville, où il est né en 1939. J'en ai choisi un extrait, il fait allusion aux Jeux Olympiques qui se sont tenus dans la capitale de Catalogne en 1992. Les Jeux Olympiques ont sensiblement modifié l'imaginaire barcelonais, soudain ponctué par la tour des communications de Foster, édifiée au sommet du Tibidabo. À leur actif, l'ouverture sur la mer, ces kilomètres de ports et de plages où Barcelone offre la mer libre à l'homme libre, géographie urbaine obligatoire pour le voyageur arrivé avec le catalogue a priori de la ville gothique et gaudinienne. Les Jeux ont aussi été l'occasion d'un réaménagement des infrastructures. Il a permis, avant et après les Olympiades, de mieux relier Barcelone à l'outre-colline, par les tunnels de Valvidrera et les autoroutes qui intensifient et améliorent la communication avec l'aéroport. Montjuïc aussi a changé. Le promontoire en clair-obscur est devenu parc des sports, tandis que les édifices singuliers, comme le Théâtre National de Ricardo Bofill, le MACBA, musée d'art contemporain de Maillère, ou l'auditorium de Raphaël Moneo, tentent de faire rayonner le prestige culturel sur fond urbain de désarroi visuel ou de crise économique. Le Barcelone d'aujourd'hui, démocratique et post-olympique, s'est mué en scène splendide pour un spectacle à décider. Elle est dès lors disposée à accueillir tout événement universel, car nulle angoisse n'est plus insupportable que celle du théâtre vide. Ouverte sur la mer, une mer socialisée, Barcelone n'est plus l'amphithéâtre d'une bourgeoisie hégémonique, mais d'une ethnie urbaine conditionnée par un puissant attachement patriotique à sa ville, qu'elle couvre d'un regard protecteur, amoureux, édipien. Un regard comme en ont les enfants de veuves, car les Barcelonais d'aujourd'hui, comme ceux d'hier et de demain, gardent le sentiment de vivre dans une ville qui n'a jamais bien pu se marier. Nous allons nous séparer, déjà direz-vous, j'espère, en la compagnie d'un compositeur catalan, Federico Mompou, qui avait vu le jour à Barcelone en 1893. J'aime beaucoup cette pièce intitulée « Charme » qui date de 1920 et qui est ici interprétée par le pianiste catalan aussi, Josep Colom. Bien sûr, nous nous retrouvons la semaine prochaine au milieu de la nuit. L'émission de ce jour, cette émission toute catalane, je l'ai préparée en la compagnie agréable ô combien de Suad Bucorsa, de Flora Sternadel et de Cédric Chatelus. Anne Montaron, c'est à vous.